Chapitre 59. Après être sorti de la douche, Saga s'installe en sous-vêtements dans sa cuisine avec une pizza. Des filaments de fromage fondu s'étirent entre les parts découpées dans le carton. Elle s'essuie la bouche du dos de la main. Elle repense à Mara qui est venue à la maison de la danse pour lui soumettre le problème mathématique des 7 ponts de Königsberg. Saga fait une recherche sur Internet et découvre aussitôt que le problème est insoluble. Le mathématicien Leonhard Euler l'avait déjà prouvé au XVIIe siècle. Qu'a essayé de lui dire Mara? Saga revient au journal de bord de Sven Ove Krantz, et à ce passage, où il décrit les progrès de sa patiente jusqu'à ce qu'elle lise un article dans un quotidien du soir. Mara consacre beaucoup de temps à ses sculptures en argile. Elles ont toutes un aspect et des traits bien distinctifs. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle avait réalisé une femme portant un enfant endormi dans ses bras. Lorsque, sans réfléchir, je lui ai demandé si c'était pour une crèche de Noël, elle m'a lancé un regard froid avant de poursuivre son travail. Mara est restée assise devant ses figurines pendant encore 2 heures avant d'enlever son tablier, de se laver les mains, d'aller dans la pièce de jour et de s'asseoir sur le canapé avec un journal du soir. Les échos de la télé du voisin lui parviennent à travers les lattes du plancher et le réfrigérateur se met à bourdonner. Un reflet de lumière tremble sur le mur derrière la table à manger. Saga se lève, va se poster à la fenêtre et regarde vers l'appartement d'en face. Il est situé à environ 1 mètre au-dessus du sien. L'une des fenêtres est recouverte d'une protection et sur le rebord de l'autre sont posés des pots de peinture et des pinceaux. Une échelle métallique scintille au moment où le soleil apparaît derrière les nuages. Saga retourne à la table et prend une nouvelle part de pizza. Le chien du voisin aboie. Alors qu'elle s'apprête à visionner une nouvelle séance, elle sent une profonde tension monter en elle. Quelque chose la met mal à l'aise. Et quoi? Elle se rend dans sa chambre, enfile des chaussettes, son pantalon militaire noir et un t-shirt vert forêt, puis elle fourre son téléphone dans sa poche arrière. Elle doit être prête et ne pas perdre une seconde si un nouveau paquet arrive. L'esprit en ébullition, elle va dans le couloir, met ses baskets, déverrouille la porte d'entrée et pose ses clés et son arme dans son holster sur la commode. Puis elle retourne dans le salon et allume le projecteur. Elle ouvre son ordinateur, connecte le disque dur contenant les dernières séances et lance la lecture. Les rideaux occultants sont tirés et l'image sur l'écran gris apparaît parfaitement nette. Mara Makarov a retrouvé son calme après ses accès de violence. Elle se tient debout devant sa chaise et ses yeux sombres fixent un point situé à côté de la caméra, probablement les yeux de Sven Ove Krantz. Ses cheveux sont brossés et brillants. Elle les a ramenés sur une de ses tempes avec une barrette. J'ai lu dans le journal qu'un tueur en série a tué 2 personnes en tentant d'enlever un enfant dans une école maternelle de Gamla Enskede, énonce Mara d'une voix tendue. Que l'enquête est classée confidentielle. Un tueur en série? Titurak? Mara, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Le cœur de Saga s'emballe soudain. Elle sait exactement de quoi parle Mara. Je vais y venir. Il y avait une photo dans le journal du meurtrier, tu sais? De profil et de face, tente-t-elle d'expliquer. Il est donc en prison maintenant. Il s'est évadé, je crois. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, il est sorti. Je comprends que ça puisse paraître bizarre, mais je l'ai reconnu. Je sais que c'est lui. J'ai bien regardé sa photo dans le journal. Et c'était le capitaine de notre bateau. Dit Mara en s'asseyant, sans quitter des yeux le psychologue. Saga frémit lorsqu'elle réalise que c'est de ça que parlait Suzanne Yelm. Pendant que Jurek était à l'isolement dans l'unité sécurisée de psychiatrie, il planifiait déjà ce qu'il ferait 6 ans plus tard. Il attendait que ce diplomate rassemble sa famille en Suède pour pouvoir tous les kidnapper, les emmener dans un bunker de transit et les enterrer vivants. « De quel bateau parles-tu ? » demande gentiment le psychologue. « Je n'y avais pas pensé avant, à la manière dont ça a commencé. Mais maintenant je sais. C'était à l'anniversaire de mon grand-père. Lorsqu'il est venu en Suède avec la famille, on devait faire une excursion en bateau, suivie d'un dîner au grand hôtel. Je vois, le capitaine était un homme ridé qui parlait russe. C'est lui, sur la photo du journal. Jurek Falter. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on a bu du sirop de fraise sur le pont, dans des petits verres à liqueur givrée, et après, on s'est réveillé dans une cellule. C'est donc un tueur en série qui vous a enlevé. Je suis absolument sûr que c'est l'homme sur la photo, mais je ne sais pas s'il fait partie des services secrets russes. Et ce n'est pas le même homme qui vous apportait parfois de la nourriture ? Non, dit Mara en se levant, subitement agitée. Saka contemple le visage gris de la jeune femme et songe que Jurek a dû charger Beaver, son collaborateur, de maintenir la famille en vie jusqu'à ce que le moment soit venu de les enterrer vivants l'un après l'autre. Mais lorsque Juna a tué Jurek, Beaver a abandonné sa mission comme un soldat après une capitulation. La famille de Mara est restée en captivité sans personne pour la nourrir. Beaver a fui le pays et purge aujourd'hui une longue peine en Biélorussie. C'était vraiment une prison, là où vous étiez enfermé ? Demande le psychologue. Je ne sais pas, dit Mara en se grattant les bras. Vous avez été emmené en Russie ? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, on nous donnait tellement peu à manger que j'ai du mal à me souvenir. Mais peut-être qu'on était en Suède pendant tout ce temps. Ok. T'es pas obligé de dire ok. Je sais que ce que je dis est bizarre. J'ai d'abord prétendu que c'était le FSB qui nous avait emmenés dans une prison russe, près des Mojave Yave, et maintenant tout d'un coup je dis autre chose. Mais quand j'ai vu cette photo, des souvenirs sont revenus. Ça n'a rien d'étrange. C'est comme ça que la mémoire fonctionne. Tu dois m'aider. Il est écrit dans le journal qu'un officier de police, une inspectrice, qui s'appelle Saga Bauer, mène l'enquête. Tu dois lui parler, lui dire tout ce que je t'ai raconté, que ma famille est séquestrée par ce type, qu'elle doit la sauver. Je vais essayer. Quelque chose clignote sur le mur derrière Mara, peut-être le reflet d'une montre ou de l'objectif d'un appareil photo. C'est urgent, poursuit-elle. Tu dois dire à l'inspectrice que... Saga se détourne, débranche les câbles et emporte l'ordinateur et le disque dur dans la cuisine. Elle vient de comprendre ce qui l'a mise en alerte un peu plus tôt. L'échelle, dans l'appartement d'en face, est rutilante, sans aucune tache de peinture. C'est peut-être un hasard. Peut-être est-elle utilisée pour la première fois. Ou alors, ce n'est pas un peintre qui l'a installée, mais un tireur d'élite, pense-t-elle. Un tireur qui la suit avec la lunette de son fusil en attendant que le groupe d'intervention force sa porte. Calmement, Saga se dirige vers l'évier, saisit son arrosoir et s'approche de la fougère posée sur le rebord de la fenêtre. Elle regarde la rue. Celle-ci est déserte. Ni voiture, ni vélo, ni piéton, ce qui signifie qu'elle a été barrée. Saga sent l'adrénaline traverser son corps, et un frisson lui parcourt la peau, comme si un brouillard glacial l'enveloppait soudain. Sa tête gronde. Une voix intérieure lui hurle de s'enfuir. Le cœur battant, elle se dirige à pas mesurés vers la table, prend une part de pizza. La porte à sa bouche, se saisit de son ordinateur et du disque dur de l'autre main et sort de la cuisine. Une fois hors champ, tout s'accélère. Elle se rue dans l'entrée, pose la pizza sur la commode, fourre le matériel dans son petit sac à dos, attrape son arme, les clés et un coupe-vent noir, sort dans la cage d'escalier et claque la porte derrière elle sans prendre la peine de la verrouiller. Des pas rapides résonnent en bas. Elle monte silencieusement l'escalier jusqu'au comble, déverrouille la petite porte en acier et la referme délicatement derrière elle. Des poutres s'élèvent jusqu'à 4 mètres au-dessus du sol en briques bosselées. L'air chaud et stagnant sent le vieux bois et la pierre. Saga enfile rapidement les sangles de son holster et son coupe-vent, installe son sac à dos sur ses épaules, puis se hâte de traverser les planches clairsemées des combles. Elle atteint une échelle en bois qui grimpe jusqu'à une lucarne métallique dans le toit utilisé par les ramoneurs et les déneigeurs. Elle l'ouvre avec précaution et jette un regard à l'extérieur. Le toit semble désert. Elle se faufile par la lucarne, la referme derrière elle et d'une main s'agrippe fermement à la rambarde. Son regard glisse le long du toit en tôle noire jusqu'à une façade jaune fraîchement rénovée, ses rangées de fenêtres et la rue. 25 mètres plus bas. Elle rampe jusqu'à une échelle fixée sur la toiture, saisit fermement un barreau et se hisse avec prudence jusqu'au sommet. Elle a maintenant une vue imprenable sur tout le quartier de Södermalm. Les toits des immeubles, l'église Maria Magdalena, la rue Götgatan et le globe. Le vent fait voler ses cheveux sur son visage. Il n'y a qu'un seul chemin. Elle avance à 4 pattes sur la passerelle qui longe le faîte. Le métal résonne à chacun de ses mouvements. Elle atteint le pignon. Tous les bâtiments du quartier sont reliés entre eux, mais le toit en cuivre de l'immeuble voisin est plus pentu et beaucoup plus bas que le sien. Elle s'élance, rate de peu la passerelle, vacille et tend aussitôt les bras pour se rattraper. Ses clés tombent de sa poche, rebondissent contre la tôle et glissent pour aller se coincer dans la rive du toit. Une mouette plane dans un courant d'air ascendant. Dans un moment de vertige, elle a l'impression que la rue en dessous d'elle s'enfonce dans un profond ravin. Elle réussit à se maîtriser, rampe jusqu'à l'étroite passerelle et progresse sur le faîte jusqu'au bâtiment suivant. Une échelle rouillée mène à un autre toit. Elle attrape le garde-fou, s'y accroche et avance avec difficulté. Elle glisse, se cogne la hanche, manque de tomber, mais réussit tant bien que mal à se redresser. Ses vêtements claquent au vent. Les jambes tremblantes, elle se dirige vers une cheminée, en saisit les montants et la contourne. Elle est maintenant devant une mansarde. Impossible de voir quoi que ce soit derrière la petite fenêtre à simple vitrage. Elle la brise avec son coude, écarte les bris de verre, se glisse à l'intérieur et atterrit dans un grenier sombre. Le plafond est si bas qu'elle doit se courber. De vieilles portes poussiéreuses datant du début du siècle dernier sont empilées sur le plancher en bois non raboté. Saga s'assied sur une poutre posée au sol, sort son portable et ouvre l'application de ses caméras de surveillance. L'écran est noir. Elle s'apprête à éteindre l'appareil lorsque soudain elle voit des faisceaux de lumière balayer les pièces enfumées. Elle passe en mode HD et agrandit l'image de la salle à manger. Des policiers vêtus de noir, avec des casques, des masques de protection et des carabines automatiques munies de lampes tactiques, se déplacent lentement à travers les pièces. Saga se lève, ouvre une porte en fer et descend un escalier étroit jusqu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. 6 sacs en papier du site de livraison Matem sont posés contre le mur devant l'ascenseur. Saga dévale la cage d'escalier. Dans sa course, elle voit des vélos devant les portes et des pots de fleurs dans les coins. 2 landaus sont stationnés dans le hall d'entrée. Saga en prend un, enlève le frein avec son pied, franchit la porte et tourne à droite. La rue Bastogatan est totalement vide. Le vent fait bouger les rubalises mises en place par la police à 30 mètres de là. Juste avant le carrefour, une camionnette noire avec 2 petits feux bleus clignotants égarés. Saga doit la dépasser pour sortir de la nasse. Sans se presser, elle marche sur le trottoir en poussant le landau. Puis elle s'arrête. Charge son arme sous la capote, la pose sur le coussin rose et reprend son chemin. Personne en vue. Elle essaie de se vider le cerveau et de ne pas penser à ce qui est en train de se passer afin de maintenir le stress à distance. Si elle se sort de cette situation, elle prendra le temps de tout analyser et d'élaborer un plan d'action. Des aboiements retentissent derrière elle. Elle arrive devant un ruban de signalisation. D'un geste calme, elle le soulève, passe dessous et continue en direction de la camionnette. Concentrée, elle longe le véhicule par la gauche. La lumière bleue clignotante se reflète dans les chromes du landau. Si elle réussit à tourner à l'angle de la rue, elle pourra courir jusqu'à Slussen, disparaître dans la foule à la station de métro et monter dans un train. Elle a presque dépassé la camionnette lorsqu'un policier s'avance, un gobelet fumant à la main. Saga fixe l'arme dans le landau tout en essayant d'adopter l'attitude d'une mère qui regarderait son enfant. En arrivant à la hauteur du policier, elle sent l'odeur du café. Elle l'entend qui fait un pas. Le gravier crisse sous ses bottes. Elle frissonne, mais continue d'avancer. Tend la main vers le pistolet et le saisit. Le policier reçoit un appel sur Raquel, fait quelques pas en arrière, puis retourne à la camionnette. Saga relâche son arme et pose la petite couverture dessus.